Didier Tronchet, bonjour. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre ouvrage chez Dupuis, qui est L'année fantôme. Vous vous défendez d'avoir écrit une autobiographie, et pourtant on sent le vécu. Et je me demandais à quel pourcentage on peut dire qu'on n'est plus autobiographique.
À 74%. Non, bien sûr que c'est un mélange, forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires dont les lecteurs sentiront qu'elle est sincère. Et que ce n'est pas une fabrication, ce n'est pas une œuvre d'imagination pure. Dans ce cas-là, les gens aussi vont puiser dans leur propre réservoir émotionnel. Et c'est là que c'est intéressant, l'échange avec le lecteur. On vit finalement tous la même chose. C'est une histoire de quoi ? De secret de famille aussi, c'est vrai. Et on en a tous connu. Donc voilà, c'est une part importante de vérité, oui, pour que la sincérité passe, qu'on sente le vrai. Mais après, bien sûr, j'en fais une fiction parce qu'il faut rendre ça communicable et que voilà, il faut que ce soit une histoire, pas une simple confession.
Alors finalement, je suis très heureux de ne pas rencontrer Colo parce que j'aurais peur finalement de me trouver broyé par cet humoriste sarcastique et sanguinaire finalement.
Absolument.
Donc, ouf,
oui, tout en vient. Vous l'avez échappé belle. Mais on les connaît, hein, ces humoristes qui vous foudroient sur les plateaux de télévision en quelques mots, une bonne vanne et l'interlocuteur est par terre. Et c'est vrai que c'est redoutable. Et c'est vrai que l'humour est devenu une arme incroyable. Et de plus en plus, on les voit, les gens qui font du one-man show, il y en a partout maintenant. C'est devenu vraiment l'exercice le plus recherché qui soit. Et moi, je les trouve un peu en excès de pouvoir.
Et finalement, des gens comme fatalement Ruquier, Hanouna et tout leur chacal, dirons-nous, ça soit... Nolo, Moix, même Bedos, Guyon, etc. Vous êtes passé aussi à leur moulinette ?
Ah non, moi j'ai eu la chance de ne pas être trop exposé dans ce genre d'émission. En revanche, il m'est arrivé une fois, et c'est l'objet du récit aussi, il m'est arrivé de me retrouver dans une émission de grande audience avec des philosophes, des économistes, des sociologues. Et moi, je n'ai pas du tout ma place là-dedans. Je pense qu'on attendait de moi que je fasse de l'humour, donc j'ai tenté de faire de l'humour et je me suis vautré lamentablement. Et d'ailleurs, j'ai pas tout perdu dans l'affaire. Ça m'a donné l'opportunité de raconter ça dans le livre. Et c'est effectivement ce qui arrive à mon personnage, qui est au sommet de son arrogance, de sa puissance, de sa gloire, et qui, à un moment donné, tombe à la faveur d'une mauvaise blague.
Et c'est vrai que finalement, tout bascule lors de cette émission.
Oui.
Vous vous y attendiez, vous le craigniez quand vous êtes allé sur un plateau comme celui-là ?
Ah ouais, un peu confusément. Je sentais que ce n'était pas mon univers, que je ne serais pas à l'aise comme tous ces gens qui répondent aux questions de manière extrêmement mécanique, j'ai envie de dire. Ils avaient un discours qu'on pouvait vraiment... on ne pouvait pas rentrer dedans. Je ne pouvais pas découper ça et essayer de trouver une autre porte d'entrée pour faire une blague marrante. Rien n'était possible. Donc non, je me disais, c'est pas ma place. Et au bout d'un moment, j'en ai eu confirmation.
Vous étiez un peu maso ?
Alors moi, j'aime bien expérimenter toutes les situations. Et après, on voit. Des fois, ça me réussit, des fois, pas du tout. Mais c'est le jeu. Cela dit, je ne regrette pas, parce que ça m'a permis de raconter cette petite mésaventure avec beaucoup de sincérité, parce que effectivement, je l'avais vécu. Donc, échec au succès, je fais feu de tout bois.
Alors, écrire et dessiner l'année fantôme, ça équivaut à combien d'années d'analyse ?
Eh bien, on peut inclure ça dans les années d'analyse, on peut dire hein, que ça les rajoute. Non, oui, il y a dans le personnage consulte un analyste. Moi, j'aime bien ce rapport-là où on raconte notre propre histoire, mais où on a affaire à quelqu'un qui doit traquer les faux-semblants, les impasses, les non-dits. Et toutes les formes de délits dont on est capable. J'aime bien ça. Ça nous oblige à aller sans concession vers l'essentiel. Et lui, il n'a pas le choix. Il est obligé de le faire. À partir du moment où il est tombé à cette émission et qu'il doit retourner dans sa famille, là, il n'a plus de protection. Et là, pour lui, s'ouvre un gouffre.
la première partie de l'année fantôme était une esquisse de roman. À quel moment est-ce que vous avez basculé vers la BD ?
Je me suis dit que la bande dessinée avait une vertu incroyable qui est celle de la caricature, de montrer de façon plus directe, plus forte, avec des gueules comme ça qui sont tranchées, avec des situations qui ne sont pas nuancées. Ça me permettait d'aller plus vite, aller plus fort. Et je me suis dit que finalement, comme je pratique ce médium depuis assez longtemps, je serais peut-être plus efficace à raconter cette histoire-là, puisqu'elle est marrante aussi, j'espère, d'un point de vue comique. On est dans le côtoiement de la tragédie et du rire, toujours. Et c'est un territoire qui m'intéresse bien, j'aime bien ça. Donc je me suis dit, c'est typiquement le genre de langage de la bande dessinée.
Vous avez écrit déjà 8 livres. Pendant le processus d'écriture, est-ce que vous visualisez ce que vous écrivez un peu comme une sorte de storyboard ou quoi que ce soit, ou au contraire, vous êtes parti sur une ligne beaucoup plus abstraite?
Donc, quand j'écris un roman, comme c'était le cas pour cette histoire, c'est vrai au début, j'ai l'image tout de suite. Alors ça, c'est une vieille pratique depuis le temps que je raconte des histoires en images. La moindre début d'idée, elle est formulée dans mon esprit, c'est une image. Et si j'en fais un livre, ce sera la description de cette image. Et si j'en fais une BD, ce sera, si possible, le plus proche possible de mon image mentale.
En 2002, vous êtes passé à la réalisation au cinéma. Le nouveau Jean-Claude, avec un générique quand même assez cossu, on peut dire. Quand même.
Je trouve, ouais.
Alors, quel souvenir gardez-vous de cette expérience cinématographique ?
À la fois un excellent souvenir, parce que j'avais à ma disposition un outil incroyable, qui est le cinéma, avec des gens, des techniciens, des acteurs, tous les gens qui étaient au top de leur métier pour raconter une histoire. C'est formidable. Moi, qui suis un dessinateur un peu limité, tout à coup, j'avais vraiment toute une palette sur laquelle je pouvais jouer pour raconter une bonne histoire. Après, bien sûr, la difficulté, ça a été de maîtriser tout ça, notamment les acteurs, qui sont des gens un peu difficiles, et d'être confronté à la puissance financière qui a amené tout ça. Ça, c'était difficile, parce que la bande dessinée, on n'a pas une envergure telle.
On est seul avec sa feuille. Hein,
oui, oui. Tandis que là, tout à coup, j'avais beaucoup de monde qui se mêlait de ça, et ça a été la difficulté.
Mais je veux dire, l'évolution passée donc, du personnage que vous avez créé au show, puisque vous l'avez interprété aussi, c'est encore une étape inévitable ou c'est une opportunité qui est venue à vous, à laquelle vous n'aviez pas nécessairement pensé ?
Le cinéma,
ouais.
J'ai vraiment eu envie très tôt de ça, quand même, parce que j'ai une fascination d'enfant.
À cause de
Terre
Galle, proprement dit, ou au cinéma en général ?
Non, moi, j'avais envie de ce personnage au cinéma, je voulais voir comment il pouvait exister incarné par un acteur. Et puis, non, j'avais cette fascination qu'on a tous pour l'outil cinématographique. Et je ne regrette pas, je me suis bien amusé, franchement. J'aurais bien aimé même continuer, mais bon, là, c'est un milieu vraiment très difficile. Ah ouais, c'est dur.
En parlant comédien, mais vous avez une belle préface qui est signée par François Morel. Morel, c'est de chien, c'est aussi notre Yolande, d'une certaine
façon.
Oui,
bien sûr, ouais.
Comment se fait-il qu'il en est arrivé à préfacer votre ouvrage ?
Ben c'est une belle rencontre. Moi, j'adorais les Deschiens, mais je l'adore aussi en tant que chanteur, finalement. J'aime beaucoup le chanteur François Morel. Et moi, je suis un amateur de chansons françaises. On s'est rencontrés sur ce terrain-là. On a parlé de Brassens, on a parlé de tout ça. Et voilà, c'était des beaux échanges. Et à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, ce personnage que je raconte, d'humoriste qui vient de province, c'est un peu lui, sauf que lui, il est tout sauf méchant, il est incapable de la moindre méchanceté. Et ça m'amusait de lui demander un petit mot sur le livre, quoi. Donc voilà, c'est souvent des rencontres comme ça qui produisent ce genre de résultats.
Et il avait lu l'ouvrage
bien sûr,
avant
oui, oui.
De préfacer.
Ah oui, bien sûr, oui.
En fait, c'est le Nord aussi, quand même, qui est fort présent. On ne peut pas ne pas citer les Ch'tis et surtout la suite, puisque finalement il y a aussi ce refus de ses racines, un peu comme le personnage de Danny Boone. Est-ce que vous aussi, vous avez ces accroches de qui sont bien présentes.
Absolument, pendant trop longtemps d'ailleurs. J'ai eu le sentiment que je n'allais jamais sortir du Pas-de-Calais, que c'était une prison. Mais c'est vrai que...
Vous êtes évadé quelque peu. Hein.
J'ai réussi à m'en évader.
Ouais. On va en parler.
Mais j'ai longtemps cru que j'en sortirais jamais. Donc j'ai un peu ça. Ce n'est pas du tout du mépris ou de la honte pour mes origines, au contraire. Et simplement, moi, j'avais d'autres aspirations et je voulais voir d'autres horizons et raconter d'autres choses, faire d'autres rencontres et pas passer ma vie dans un département.
Donc vous êtes parti en Amérique du Sud. Est-ce que c'était pour chercher l'inspiration ou pour fuir finalement quelque chose ?
Non, j'ai suivi ma femme qui avait une passion pour l'Amérique latine et qui a eu...
Elle partait avec votre fils quand même.
Avec le fils, on est partis tous, et même le chat. Et on s'est retrouvés là-bas à Quito à 2800 mètres. Et je me suis dit, c'est un endroit extraordinaire que j'ai envie de raconter. Je ne savais pas comment le raconter. Donc j'ai repris mon vieil outil de la bande dessinée.
Et d'où Vertige.
Oui, Vertige de Quito, qui raconte nos aventures de 3 ans d'Amérique latine. Avec, pour la première fois, je me mettais en scène comme en étant un personnage de l'histoire.
Mais vous avez été même jusqu'en dans la jungle amazonienne quand même. Vous
oui,
avez
bien
été
sûr.
Plus que la capitale quand même. Bolivie aussi. Et ça vous a, je veux dire, indépendamment de cet ouvrage, est-ce que ça vous donne des envies d'explorer peut-être sous un autre angle ou peut-être de repartir vers d'autres continents
Moi, je trouve que le voyage, c'est un bon moment de remise en question de soi-même et d'ouverture sur des mondes qu'on ne comprend pas de loin. Il faut aller voir, il faut parler, il faut partager. Ma façon de voyager à moi, préférée, ça reste d'être dans un endroit pendant une longue période. C'est pas de passer d'un pays à l'autre avec un sac à dos. C'est très bien, les gens qui font ça. Mais moi, je trouve que ça donne pas à l'arrivée autre chose qu'une vision de carte postale. Alors que descendre en profondeur dans la réalité d'un pays, parler avec les gens, voir comment ils fonctionnent, ils réagissent, ils ressentent, on est un peu légitime ensuite pour parler du pays, même si ça ne sera jamais le plus juste possible. Mais il y a quelque chose de sincère là aussi dans ma rencontre avec les gens. Et c'est comme ça que je vois le truc, d'habiter avec eux.
Alors, votre personnage, Colo, dit un certain moment, je me suis livré à un exercice nouveau pour moi, la sincérité. C'est vous ou c'est Colo ?
Je crois que dans une grande partie du livre, c'est les deux. Moi aussi, j'ai dû, à un moment ou l'autre...
Vous mettre à nu ?
Oui, alors je ne sais pas si c'est à nu, mais en tout cas, abandonner les vieux réflexes, les vieilles protections que sont la blague, l'humour, les vannes et tout ça, qui sont bien pratiques pour survivre en société. Mais à un moment donné, c'est limité, il faut passer à autre chose, quoi. Donc j'ai dû faire sans doute ce virage moi aussi, sans m'en rendre compte, et découvrir ce territoire incroyable qu'on appelle la sincérité, c'est-à-dire dire tout simplement ce qu'on ressent, ce qu'on est, sans avoir à redouter de se prendre une moquerie ou une baffe dans l'autre sens.
Didier, un grand merci. Donc on rappelle L'année fantôme, sortie chez Dupuis dans la collection Air Libre. Merci.
Et c'est moi, merci.